Bonjour à tous, vous écoutez Les Éclairages numéro 11, et avec moi ce soir, alors, dans l'ordre, on va faire Azertov.
Salut.
On va faire Laurent Doucet.
Salut.
Irso.
Salut.
Et Titours.
Bonsoir, bonjour.
Le bonsoir. Alors, comment ça va messieurs?
Ça va bien,
moi. Oh, ça va.
Bien, merci.
Alors, de quoi vous allez nous parler déjà? Donc, Azertov, alors, on va faire dans l'ordre, on va faire Titours qui va commencer.
Je vais vous parler de la BD de Davy Morier, La Petite Mort.
Certes, et donc après ce sera qui? Après ce sera toi Guillaume, enfin avec moi, on va faire un truc
oui.
Presque préparé.
Voilà, moi je vais vous parler plutôt d'une série d'anthologie appelée X-Files.
Pardon.
Soyez bon.
Après on va parler du sujet d'Azertov qui va nous parler de...
D'un site qui s'appelle 30 jours de BD.
Très bien, et on va terminer par Monsieur Doucet.
Je vais parler moi un peu rock'n'roll avec deux biographies de guitaristes fameux.
Très bien.
Oh oh, teasing.
Alors, donc juste au passage, un nouveau site est en place, enfin va arriver, et on va faire quelques petites... Je vais faire quelques petits travaux sur le flux, donc vous étonnez pas s'il y a des petits soucis à l'avenir. Donc on va pouvoir commencer, messieurs, et on va commencer par Titours.
Là, c'est la première fois que je commence.
À toi.
Il était magnifique le jingle.
Les jingles n'ont pas changé en 3 mois. Quand même.
Bon. J'ai pas eu le temps de changer.
Ça fait un peu vintage quand même. Donc je vais vous parler donc de la BD La Petite Mort de Davy Morier. Davy Morier est donc un jeune homme jovial et convivial, chauve qui anime. Oui, qui anime, joue, écrit, réalise et dessine. C'est un vrai couteau suisse. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans Nerds, petite sitcom de quand même 93 épisodes. Bon, c'est pas bien, on a vu autant.
Il fait un rôle de composition assez...
Exactement, il incarne Régis Robert. On peut le voir également dans Jiré, L'Olé sur vos tombes, une sorte de talk show geek. Il est animé avec Monsieur Poulpe.
C'est dans Les Missionnaires. Enfin, la saison 3. Non, c'était pas dans la saison 3 de Visiteur du Futur, c'était dans l'autre truc, Les Opérateurs.
Voilà, enfin, il a fait beaucoup de choses. Et plus récemment, dans le Golden Show, toujours avec Monsieur Poulpe, son partenaire à l'écran comme à la ville, mais cela ne nous regarde pas.
Il présente toujours 120% sur No Life régulièrement, avec des plateaux en général qui peuvent être très très cons. Hein.
Aussi, enfin il fait beaucoup de choses. Et à côté de ça, il fait aussi également de la BD, sachant qu'il en a déjà publié 5, alors je ne sais pas si vous en avez déjà lu.
Ouais.
Non, moi pas encore.
Lesquelles donc tu as déjà lu?
Je crois que je les ai presque toutes.
Voilà, donc il a fait aussi.
Il a Moarf, cette fille que j'ai rencontrée une fois, deux fois, et 41 € pour une poignée psychotrope et 50 € pour tout, de mémoire.
Et Karate Boy, putain,
et Karate Boy, c'est vrai.
Bravo. Et donc là, c'est sa sixième BD, donc La Petite Mort, édité chez Delcourt, et dont le personnage principal s'appelle La Petite Mort. Et donc c'est un personnage que l'on peut retrouver sur son blog, donc badstrip.net. Site d'ailleurs d'où sont tirés ces autres BD. Donc alors comment expliquer La Petite Mort? Alors je vais vous lire le quatrième de couverture, ça va un peu vous mettre dans l'ambiance. La Petite Mort est un enfant presque comme les autres, sauf que plus tard, il devra reprendre le travail de faucheuse de son père. Ce qui tombe mal, c'est qu'en vrai, La Petite Mort veut être fleuriste.
D'accord.
Voilà, donc cette BD, ça raconte la vie de La Petite Mort, un enfant presque comme les autres, qui va à l'école, qui est amoureux d'une camarade de classe, et qui essaye d'avoir des amis, mais qui a une famille un petit peu différente des autres, et qui a des passe-temps un petit peu originaux. Alors il a également un petit chat tout mignon qui s'appelle Séphie, et un poisson rouge au doux nom de Petit Greg, ou de Petit Greg. Certains comprendront la référence. Et aucun rapport avec...
Non.
Ne parlons pas du sac à balle, s'il vous plaît. Polémique. Alors dès la préface, écrite par Alexandre Astier himself, on est dans l'ambiance du bouquin, c'est décalé mais sincère, c'est simple sans être simpliste. J'avais écouté l'apéro du Capitaine où Davy avait invité, et il a une façon de raconter sa vie, ses histoires, c'est tu rentres avec lui dans son univers, mais dans son univers tu vois un peu des panneaux what the fuck qui clignotent un peu partout.
Ah oui.
Tu te demandes si ce qu'il raconte c'est vrai, mais tu te dis non c'est pas possible d'inventer des trucs pareils, quoi. Ça peut être que vrai quoi. Donc le bouquin, c'est pareil, quoi. C'est authentique. Il cherche pas à se donner un style, il a son propre style, quoi. On sent que ça vient de lui. C'est drôle, c'est touchant, c'est même émouvant, pour ceux qui ont lu, qui l'ont lu, ils comprendront pourquoi je dis ça. Je ne vous raconterai pas, sinon ça va un petit peu spoiler. Et donc, pour moi, c'était la première fois que je lisais donc, La Petite Mort, et c'est très très surprenant. J'ai été très très agréablement surpris, je dois dire. Je m'attendais pas spécialement quelque chose, mais là, je vous le conseille vivement. Et ce qui est très sympa en plus avec cette BD, c'est qu'elle est en réalité augmentée.
Oh,
donc, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 pages, vous avez un petit QR code à flasher. Donc, vous chopez une appli. Donc, vous installez l'appli. Et sur la même page, donc, vous avez un petit pictogramme. Mmh. Et en fait, ça lance une petite vidéo. Et là, vous voyez la petite tête de Livy qui apparaît. Mmh. Et qui explique que tout au long du bouquin, il y aura des petits pictogrammes un peu partout. Et avec l'appli, vous pourrez flasher le truc. Et ça lancera une vidéo qui va expliquer comment il a créé la BD. Les références, par exemple, Petit Greg, ça vient d'un concours qu'il a créé sur Facebook pour savoir, il ne savait pas vraiment comment l'appeler, le petit poisson, donc il s'est dit, tiens, je vais faire un petit concours, et quelqu'un l'a gagné, donc ça, il explique. Et tout au long du bouquin, il y a pas mal de petites vidéos comme ça qui expliquent la progression ou d'où vient la BD.
Ouais, il est très geek comme garçon, quand même, hein, quelque part. Enfin, ah, il a la fameuse culture qu'on partage un peu de références et c'est un amateur de tech. Enfin voilà, il est.
Ah mais totalement quoi. C'est, rien que dans la. Ce qui est très marrant. Attends, je vais reprendre le bouquin. Donc t'as la préface d'Alexandre Astier et juste en dessous il y a écrit dis donc il te connaît bien cet Alexandre Astier signé ma maman. Et en fait c'est clair. C'est en gros c'est tu sens là entre guillemets la génération Club Dorothée même un peu avant quoi. C'est t'as du Tang, t'as des BN, enfin t'as tout quoi. C'est voilà, ça, tu sens qu'il est non strip. Et donc il y a pas mal aussi d'autres petites surprises dans la BD avec des, entre guillemets des guests. Mais bon, ça je vous laisserai le découvrir. Donc voilà, moi c'était c'est mon coup de cœur du moment.
Ah, il va falloir acheter la BD.
Ouais. Oui. C'est marrant. Pardon, vas-y Azart.
J'allais dire que en fait c'est déjà en rupture et qu'il allait avoir une deuxième réimpression.
Moi okay. Ouais, j'ai vu qu'il avait annoncé il y a pas longtemps ouais, sur Facebook ou je sais plus où là. C'était ouais. En cours de réimpression. Ouais.
C'est marrant, moi Davy, effectivement je l'ai découvert à force de. Enfin à force, en regardant nos lives, voilà, il faisait pas mal de sketchs. Il est dans la bande des Suricates avec.
Ouais, il intervient souvent dans
les sketchs. Avec les cracks, avec. Voilà. C'est un mec qui. Moi, j'avoue, le Golden Show, moi, c'est quelque chose qui me faisait pas trop rire. Enfin, j'étais pas très. Il y a une forme de son humour où j'accroche pas beaucoup, mais le mec est d'une sincérité. Et une espèce de sympathie immédiate. Ah,
mais,
quoi,
mais dans le bouquin, la sincérité, tu vois que c'est lui. Enfin, c'est pas que ça parle de lui ou de son histoire, même si quand même t'as des gros éléments qui disent c'est lui. Mais l'univers, c'est. Voilà, ça, tu sens que c'est vraiment lui qui l'a écrit, qui raconte, qui fait pas de chichi, quoi. Il essaye pas de baratiner n'importe quoi pour faire quelque chose de, entre guillemets, d'intéressant ou de survendre le truc. Il est sincère et ça marche super bien, quoi.
Tu sens dans son humour un petit côté dépressif quand même, hein.
Ah bah, il est très très, très dépressif, hein, c'est ce qu'il dit.
Tu verras dans le bouquin, de toute façon, ça se sent très vite.
Mais il était comme ça à l'époque de son blog, je ne sais pas s'il avait encore son blog, c'était badstrip.fr.net.
Ouais,
.net, ouais. Et il faisait souvent des vidéos où t'étais vraiment, c'était vraiment très intime, tu pouvais le voir, une vidéo où il était en train de pleurer pour je ne sais quoi, et la vidéo d'après, il était en train de montrer sa nouvelle collection de Lego, enfin, c'était très intimiste.
Moi, j'ai un souvenir où il raconte ses dédicaces parce qu'effectivement, il fait. Enfin, je crois que, enfin, entre guillemets, son métier principal, c'est de la BD. Enfin, c'est ça son truc. Et il raconte ses dédicaces où il se retrouve. Il dit parfois c'est génial parce que t'es hyper porté par le public et tout. Puis il y a des fois, c'est moins informé, donc t'as moins de gens. Et puis il y a un moment où il raconte qu'il se retrouve dans un hôtel, genre Formule 1 sordide avec des. La chambre d'à côté qui baise et lui qui est tout seul avec une vue sur un espèce de terrain vague. Enfin voilà, et quand il te raconte ça, effectivement, c'est à la fois déprimant et à la fois c'est très très drôle quoi. Donc il a vraiment ce côté là.
Ouais, il t'embarque dans ses histoires quoi, c'est impressionnant. Voilà, ouais, t'es surpris, hein, t'es surpris que j'ai fait court.
J'attendais encore au moins 4-5 minutes de blabla.
Je crois qu'il y a une appli, si je me trompe pas, il a fait une appli.
Il y a un jeu.
Ouais,
il y a un jeu, c'est ça. Hein.
Mais vu qu'il est que sur iPhone, j'ai pas pu y jouer.
Ah.
Donc je me suis dit, je boycotte le jeu.
Est-ce que c'est sur Windows 7, Guillaume?
Sur Windows Phone, je ne pense
Windows
pas.
Windows Phone, pardon. Non.
Je ne pense pas, mais il faudrait que quelqu'un me passe le QR code et je pourrais essayer.
Donc Amirish, tu peux jouer sur iPhone avec ton iPhone.
Voilà, s'il y a des iPhoneurs qui nous écoutent.
On les embrasse.
Non.
J'avais été sûr.
C'est
mais puisqu'on est en train de parler, ça va être à nous, Guillaume.
Bah écoute, ça va être à nous.
Quelqu'un a encore des questions. Non, bah ça va être à nous pour parler d'X-Files. Je lance le magnifique générique.
Ah, puis au moins trouver le générique d'X-Files quand même.
Je pensais que t'allais nous mettre au moins aux frontières du réel quand même.
Voilà, mais je le mettrai en post-prod parce que j'ai pas eu le temps de le prendre.
D'accord.
Et tu dis, et tu dis aux frontières du réel, toi, tu dis pas X-Files.
Non, mais en fait, je dis aux frontières du réel juste là, et après, je vais dire que X-Files.
Ah, c'est bien.
Mais quand même, bon, X-Files, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez sûrement tous, vous, ici?
Ah, oui, quand même.
Surtout en ce moment.
Oui, mais je sais pas, j'ai pas vu parler d'X-Files plus que ça, à part sur Twitter, toi qui en as parlé.
C'était les 20 ans, il y a...
Et donc, il y a eu un panel à la Comic-Con de San Diego avec, avec Chris Carter, Duke Ovni, il y a eu toute la bande où ils ont fêté les 20 ans de la série en nous faisant espérer quelque chose, puis non, voilà.
Ouais, parce que la photo entre Mulder et Scully côte à côte, ça vendait du rêve, quoi.
Ouais, enfin bon, quand tu vois les films, je sais pas si on peut espérer quelque chose d'intéressant. Enfin bon, bon après on en reparlera tout à l'heure.
Ouais.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, X-Files, c'est une série américaine qui a été diffusée d'abord aux USA entre 1993 et 2002, avec une année par saison, jusque-là t'es d'accord?
Oui.
Donc ce qui nous fait un certain nombre de saisons, certaines 19, moi je dirais 7. Bon, mais on n'a pas la même manière de calculer.
Oh le vilain!
Officiellement, c'est... Oui, ouais, d'accord, je vois.
Moi, je compte 7 saisons d'X-Files, mais certains 19.
On va discuter de...
C'est comme les Star Wars, si on a que 3.
Perso.
Voilà, c'est un peu le même principe.
Enfin bon, on en reparlera après.
Entièrement, d'accord.
En France, bon, X-Files a été diffusé un an après, d'abord sur M6, le vendredi soir, en seconde partie de soirée, et ça dès 1994. Voilà, et puis la dernière saison a été diffusée pour la première fois en 2003. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Chris Carter qui est le créateur de cette série, et il a aussi dirigé 3 films X-Files, ainsi que, il me semble, le jeu vidéo.
Moi, j'en ai 2 en tête.
Mais j'en ai 2 en tête aussi, j'en ai trouvé un 3e sur la Wikipédia.
C'était pas un jeu ou
qui s'appelle
RAS.
Non, c'est le remake de The Asylum, en fait.
Non, alors honnêtement...
j'en parle... Oui.
Je suis quasi certain qu'il y en a que 2.
Mais écoute, il y a X-Files The Beginning et Régénération. Oui.
Non, le premier s'appelle Fight the Future.
Oui, Fight the Future, pardon, pas The Beginning. Je me trompe.
Et le deuxième,
oui.
Régénération, ouais.
Oui,
c'est ce que j'ai en tête.
Et alors, moi j'en ai un sur la Wikipédia qui sort, c'est X-Files RAS, sorti en 2001.
Ah ouais, c'est bizarre.
Alors, moi je n'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas vu. Je n'avais jamais entendu parler.
Moi non plus.
Mais.
C'est peut-être pas nécessaire de le voir non plus.
Oui. Non, comme les autres. Enfin. Comme le dernier en tout cas. Bon, sinon, X-Files, qu'est-ce que c'est pour ceux qui auraient eu la malchance de rater ça? C'est une série autour de phénomènes paranormaux. Et on a principalement un agent spécial du FBI qui est joué par David Duchovny, alias Fox Mulder. Voilà. C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il n'y a que 7 saisons.
on va en reparler.
Voilà. Et qui est un agent qui est à la fois admiré pour avoir résolu certaines affaires fort complexes, mais qui est aussi décrié parce qu'il semble croire, et même affirme croire, que les petits hommes verts existent. Du moins que le paranormal existe.
Mais ils ont enlevé sa sœur.
Attends, j'y arrive.
Excuse-moi.
Tu m'as cassé ma faim.
Ah, désolé.
Et donc l'intrigue commence, enfin pour ceux qui ont vu le pilote, ça commence par l'arrivée d'une jeune agent du FBI qui est médecin de son état et formatrice à Quantico, l'université, enfin l'académie du FBI, et elle est accueillie par un chef du bureau qui va lui proposer de rejoindre l'agent Mulder aux affaires non classées, mais de lui faire parvenir ses rapports de travail afin d'évaluer l'agent Mulder. Et on comprend que cet agent est sur la sellette et qui risque sa place en tout cas au sein du FBI. Donc le pilote et le premier épisode en fait nous montre que Dana Scully, qui est jouée par Gillian Anderson, finalement trouve plutôt les méthodes de son collègue relativement honnêtes et relativement en adéquation avec ce qu'il devrait faire. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi.
Elle reste sceptique quand même, quoi.
Alors, elle est sceptique quant à ce qu'il cherche, mais pas quant à ses méthodes de recherche.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et c'est vrai qu'elle va lui sauver la peau, notamment lors du pilote, où elle va, par son rapport, dire que l'agent Mulder a effectivement trouvé des choses qui sont, comment dire, inexpliquées.
Inexpliquées, oui.
Voilà, mais qui ont disparu, soit qui ont été volés, soit qui ont disparu dans un incendie. Voilà. Elle ne pourra sauver, elle, sa peau que grâce à un petit objet métallique qu'elle a retrouvé dans les fosses nasales d'un cadavre. Et voilà. Donc ça, c'est le premier épisode, bon, je passe assez vite, et là apparaît, enfin, dans ce premier épisode, apparaît déjà l'homme à la cigarette, qui est un personnage quand même central de la série, et qui va venir récupérer à la fin de l'épisode cet indice et l'entreposer dans un sous-sol du Pentagone. Et là, on découvre une collection immense de ce qui semble être des preuves de l'existence de vie alien.
D'ailleurs, c'est la même image qui clôt la saison 1. On le voit aussi dans la même salle en train
de ranger d'autres preuves.
De ranger d'autres preuves dans des boîtes.
Et c'était une référence pas du tout déguisée à la fin de Indiana Jones et les aventures de l'Arche perdue, où ça finit aussi sur un hangar ouais. comme ça.
Et ouais, donc 93. Indiana Jones et la dernière croisade
c'est
était 89, déjà sortie.
80,
d'accord,
je crois.
D'accord. Ouais. Donc un petit clin d'œil. Ok, et donc effectivement, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on apprend dans le premier épisode que l'agent Mulder croit aux aliens depuis qu'il aurait assisté à l'enlèvement de ta sœur par ces extraterrestres, et il aurait retrouvé la mémoire de cet événement lors d'une séance d'hypnose régressive. Et donc au fur et à mesure des saisons, des 7 saisons, l'agent Mulder va chercher à la fois des preuves de l'existence de phénomènes paranormaux, alors que l'agent spécial Scully, elle, n'aura d'autre but que de démontrer scientifiquement que les origines de ces phénomènes sont bien terrestres. Voilà. Donc va y avoir pas mal de différences entre eux, et par contre un fil rouge existe, qui est une conspiration que recherche à démontrer l'agent Mulder, qui serait une conspiration afin d'empêcher le monde de connaître l'existence de ces extraterrestres. Voilà. Donc à la fin de la saison 7, Mulder quitte la série, c'est pour ça que je dis que c'est la fin d'X-Files pour moi. Et on ne va pas nous faire croire que le T-1000 pourrait prendre la place du héros de la série quand
Robert
même.
Robert Patrick mais était c'est... très bon, moi je
voilà, je suis d'accord avec toi, Antoine, c'est pas du tout ça, mais... Alors,
j'adore Robert Patrick.
Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, pendant les deux dernières saisons, on ne parle que de Mulder. C'est-à-dire qu'il y a, il y a d'excellents épisodes où ils font autre chose, mais toute la première partie de la saison 8, c'est la recherche de Mulder. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, il y a un jeu où il est là sans être là, quoi.
Ouais, mais je t'avoue qu'au moment des saisons 6 et 7, il y a quand même, je trouve, un essoufflement au niveau de l'imagination. Enfin, moi, je me suis un petit peu lassé à ce moment-là. Et le départ de Mulder, ça a été la goutte d'eau, en fait. Et j'ai vraiment décroché au début de la saison 8. J'ai dû regarder les 3 premiers épisodes et après, j'ai laissé tomber. Et je dois avouer que les saisons 8 et 9, en fait, je les ai pas vues.
Ah.
Alors, peut-être que je les regarderai là.
On revoit Mulder, quand même. T'inquiète.
Je fais un parallèle parce que j'ai cherché évidemment sur internet dans l'intervalle. RAS n'est que le regroupement des 2 premiers épisodes de la saison 9. Ils avaient fait ça pendant une période, ils regroupaient des fois 2 épisodes qui étaient doubles.
D'accord, ce qui correspond.
Voilà, ce qui est des épisodes avec Doggett et Reyes, notre agent. Voilà, mais c'est juste ça, RAS.
D'accord, mais écoute, je te remercie pour cette précision. Voilà, donc bon. Après la présence de... Comment tu l'appelles, celui qui joue T-1000?
Robert Patrick,
ouais. Bon. Voilà, après, moi j'ai pas accroché, mais bon, ça vient peut-être aussi d'une certaine lassitude qui s'était installée avant. Vous avez regardé les 2 saisons, la 8 et la 9?
Ouais.
Oui, j'ai des souvenirs.
Personnellement, ça m'a pas marqué.
Moi, je les ai en plus en DVD. Le truc, c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, on est tous nostalgiques de Mulder, mais Robert Patrick apporte un espèce de personnage qui est un flic de New York, extrêmement dur, extrêmement plus âgé que Mulder. Donc il apporte une espèce de rudesse, et il y a des... Par contre, c'est les épisodes... La conspiration est bien moins intéressante, je vous l'accorde, que les 7 saisons d'avant. Par contre, il y a des looners, les épisodes sans conspiration, qui sont hyper pas drôles. Ça, par contre, c'est vraiment des... C'est beaucoup plus noir, je trouve, que les épisodes d'avant, alors que pourtant, X-Files est déjà pas léger. Mais les épisodes avec Robert Patrick, c'est... ils sont parfois très très... Il y a des très très bons épisodes, comme toute la saison, comme la série en entier. Il y a des bons, très bons épisodes.
Il y a des très bons, il y a des plus mauvais. Ouais.
Mais je trouve que voilà, il y a un ton un peu différent. Voilà. Après, je pense que, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais on en parlera après. Les difficultés de production ont fait que je pense que Doggett a pas réussi. Doggett, qui est le personnage de Robert Patrick, commençait à peine à s'installer quand ils ont vraiment arrêté. Enfin voilà, ils ont pas. Il savait pas trop s'il devait l'installer ou pas, donc je pense qu'il a
été un peu sous-exploité, parce que
ouais,
c'est au même moment que tu vois, certains personnages secondaires sont devenus principaux. Par exemple, je pense à Walter Skinner, qui, lui, à ce moment-là, est aussi devenu un personnage vraiment emblématique de la série. Je pense qu'il a peut-être été un petit peu sous-exploité.
Robert Patrick. Et ce qui est rigolo, pour finir, c'est que, par contre, c'est un basculement où, à ce moment-là, Robert Patrick, Doggett, est lui quelqu'un qui ne croit pas à tout ce qui est paranormal, et à ce moment-là, le rôle bascule vers Scully, qui devient, sur les deux dernières saisons, celle qui croit. Et ça, à la limite, c'est très rigolo.
Écoute, je regarderai ça, j'ai prévu de me refaire l'intégrale.
Ou t'essayes de regarder juste le tout dernier épisode.
Oh non, 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 je pense qu'il faut regarder les 8 saisons.
Regardes... En fait. Non, mais pas forcément les deux saisons, enfin, en entier, mais tu regardes les épisodes qui abordent la mythologie.
Non, bah, non, parce que ce qu'on disait, non, je pense qu'il faut... Comme les précédents, il y a aussi énormément de plaisir. Moi, le X-Files, j'adorais le côté, les épisodes solo sans mythologie étaient aussi souvent assez exceptionnels. Très, très quoi.
Ah oui.
Ils ont créé des méchants surtout emblématiques, quoi. Genre Tooms ou des personnages comme ça, qui sont assez énormes. Quoi.
Oh oui.
Enfin, entre autres.
Donc... Il y a des épisodes vraiment pitoyables, comme cet épisode qui reprend le mythe du visage de Mars, qui est une catastrophe. Mais
oh, je trouve dur. L'épisode, c'est la deuxième saison avec Isara.
Non, c'est la première saison. Juste avant l'épisode, en fait, l'épisode où ils sont dans une espèce de base en Antarctique, où ça reprend quasiment les caractéristiques de The Thing. Et juste après, il y a cet épisode-là qui casse complètement la dynamique, et c'était vraiment, vraiment mauvais. Je suis désolé, mais j'ai trouvé cet épisode complètement mauvais, celui de l'espace.
Et l'épisode avec El Chupacabra.
Ah, moi, je l'aime bien, celui-là, il est rigolo.
Oui, il est rigolo.
Mais c'est une époque où je pense qu'il y avait un travail qui était... je pense qu'on prévoyait... Les créateurs de séries prévoyaient moins, enfin les équipes de tournage et tout, c'était fait, je pense, un peu plus à l'arrache qu'aujourd'hui. Il y avait un côté où, c'est souvent raconté dès que tu ouvres un bouquin sur X-Files, où les mecs couraient après le temps pour réaliser des trucs, ce qui donne des fois des écritures.
Un petit peu approximatives. Bah,
je pense qu'ils n'avaient pas le même budget, quoi.
Aussi, notamment.
Quand tu vois le budget des séries actuelles, c'est violent.
Ils avaient beaucoup de mal à tenir les budgets sur certains épisodes, et que certaines fois, tu pouvais avoir un épisode qui allait dans. Tous les sens, plein de lieux différents, plein de lieux de tournage différents, ça coûte de l'argent. Et l'épisode d'après, ça va être un épisode en huis clos où vous allez vraiment économiser le maximum d'argent, et c'est presque les plus réussis. Hein.
Parfois, ouais. Non, c'est souvent des bonnes idées qui lesquelles découlent.
La musique aussi. La musique des épisodes est juste énorme. Quoi.
Mark Snow pour les génériques.
Ça te colle une ambiance de malade, quoi.
Je pense qu'on pourra en discuter des heures, mais il va falloir quand même passer à la suite, hein.
Un dernier truc qui était insupportable avec cette série, c'était M6 qui diffusait l'épisode dans le désordre.
Ah oui,
ce qui fait qu'un soir, t'avais Scully qui était enceinte, épisode suivant, elle apprend qu'elle est enceinte.
Pour des problèmes et... souvent d'interdiction de moins de 12
ans. Au moins de 12 ans. Et donc, il s'était pris des lettres d'insultes de fans par centaines, voire par milliers. C'était du gros n'importe quoi.
Mais rapport à ça, je me pose juste une dernière question. Est-ce que j'étais trop jeune, donc j'ai pas vraiment connu, j'ai pas de souvenir de ça, mais en 93, on était déjà dans la trilogie du samedi?
Non, c'était le vendredi soir.
C'était avant.
C'était le vendredi soir.
C'était le vendredi soir sur les coups de 10h30, 10h40.
Ah ouais.
Il y a même des périodes où c'était diffusé le dimanche après-midi.
Ça me dit rien, ça.
Pour la petite anecdote personnelle, moi j'ai découvert la série, c'est mon frère qui m'a fait découvrir la série. Moi, les deux premiers épisodes que j'ai vus, ça m'a un peu ennuyé. Enfin, j'ai pas accroché tout de suite. Il a fallu encore un ou deux épisodes, et là je suis rentré dedans et j'ai pu lâcher le truc.
Alors, quand même, il y a des choses à rajouter. Il y a eu deux films. Le premier film qui se situe entre les saisons 5 et 6. Et le dernier, Régénération, bon, qui parle de la disparition d'un agent du FBI, et seul Mulder et Scully semblent être capables de le retrouver. Bon, franchement, moi j'ai failli m'endormir pendant celui-là.
Il n'est pas exceptionnel.
Le premier film a le mérite de faire le pont entre la saison 5 et 6.
Ouais, c'est pas un film transcendant, mais il est pas mal.
C'est celui avec les abeilles, là?
Oui.
Oui.
Okay.
Mais oui.
Au moins, il est beau. Il y a des belles images.
Il est très, très beau.
Régénération n'est pas terrible, moi, je trouve.
Les gars, il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est le jeu vidéo X-Files.
Ah oui.
Tu parles du
jeu vidéo PC.
Ouais.
Non, pas point and click, non, pas
si,
du
si,
tout.
Si. Ah si.
Ah non, pas du point and click. C'était celui avec le film où tu étais un personnage de l'histoire et tu jouais, et à partir de tes réactions, t'avais une histoire un petit peu différente. C'était la version 7 CD.
Oui, mais c'est ce que dit Péremptoire, c'est un jeu où tu cliquais, enfin tu cherchais des objets dans le décor et tout, ça avait une forme de point and click.
J'avais sur PlayStation, je crois.
Alors, il a existé sur PlayStation, mais il semblerait qu'il n'était pas aussi complet.
Ah, peut-être, ouais. J'avais que 4 CD.
Oui. Et voilà, et donc, ah oui, si, quand même, j'ai trouvé un truc rigolo. Il y a une parodie qui existe et c'est The Sex Files, Dark XXX parodie. Voilà, oui, ils ont osé.
Oui, j'en osais malheureusement.
Et il y avait aussi un jeu de plateau.
Alors, ça, je l'ai pas connu.
D'accord.
Je l'ai.
Oh, bien.
Où tu avais une cassette vidéo, une VHS que tu mettais pour suivre le truc.
Et juste pour dernière info, vous avez Amazon qui vend l'intégrale d'X-Files pour 80 euros, les 9 saisons.
C'est
Voilà.
honnête. Ouais, ça
Et
va.
puis, Laurent me disait que sur DailyMarsNet, vous aviez 20 articles écrits
Et
par
oui.
Sullivan Le Postec.
Ouais, absolument.
Voilà.
Qui
sont très
accompagne
très bien.
l'épisode.
Voilà,
Allez-y.
allez-y.
C'est une série qui est vachement regardable aujourd'hui, avec quelques défauts de l'époque, mais qui est quand même qui est d'une qualité qui a fait que ça reste une série à regarder
Voilà,
aujourd'hui.
au niveau esthétique, au bout de 5 minutes, on s'y fait.
Et ambiance, surtout.
L'ambiance est géniale, à
Bon,
regarder dans le
messieurs,
noir.
je sais que c'est
Voilà.
frustrant de ne pas pouvoir en parler plus, mais il va quand même falloir avancer.
Bon, allez.
Et est-ce qu'Azertov est réveillé?
Oui, je suis là.
Ah bon, on va passer à toi et tu vas nous parler de 30 jours de BD.
Est-ce que vous connaissez 30 jours de BD?
Ben non.
Pas du tout.
Non,
du
Pas du
tout.
tout. Alors en fait, c'est un site de publication de planches ou de strips de BD où chaque jour il y a une nouvelle publication qui est faite. Je pour rappel,
Gratuitement.
oui, gratuitement,
Ouais,
c'est un site
gratuitement, ouais.
gratuit. Ouais. En fait, donc tout le long, je parlais soit de planches, soit de strips, soit de publications, parce qu'en fait, ça dépend de l'auteur et de ce qu'il va poster. Pour rappel, un strip, c'est une planche en 4 cases.
D'accord, ouais.
Voilà. Petite précision. C'est un site internet qui a été créé en janvier 2007 par deux personnes qui étaient passionnées de BD et de blog BD, parce qu'à cette époque-là, on était en plein boom
Ouais, c'était
des
le plein
blogs
boom.
BD. Donc en fait, ce site, ça regroupe, comme j'ai dit, des planches de blogueurs BD qui sont soit exclusivement pour le site 30 jours de BD, soit issus des propres sites de chaque auteur. Donc parmi ces auteurs, donc on peut compter Navo, Lomsec, Gorobi, Chunky, et j'en passe et j'en passe. Actuellement, il y a
Je connais pas
60
grand-chose là-dedans.
de quoi?
Je connais pas grand-chose là-dedans.
Bah, Navo, il a fait la série Bref.
Ah oui,
Il a
d'accord.
fait la série la bande pas dessinée ou c'est un nom quelque comme ça.
La bande pas dessinée, c'est ça,
La
ouais.
bande pas dessinée, voilà. Donc actuellement, j'ai compté une soixantaine d'auteurs actifs. Pour 200 inactifs depuis la création du site, pardon. Ça fait à peu près 300 auteurs tout compris en un peu moins de 7 ans. Que parmi tous ces auteurs, il y a tout un style différent, une façon de narration complètement différente qui est propre à chaque auteur. Le site aussi propose un système de vote pour chaque publication où on peut mettre de 1 à 5 étoiles sur l'originalité de la planche, le scénario, la couleur ou le dessin. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer plus long sur le principe parce que en fait finalement c'est chaque blogueur va déposer sa planche sur le site et nous les lecteurs on va pouvoir voter, lire et ainsi de suite.
Mais du coup, pardon,
Vas-y.
tu évoquais des auteurs actifs et inactifs. Il y en a qui reviennent ou une fois qu'on a passé une fois, on attend son tour
Bah, je pense que en fait c'est selon le moment ils peuvent revenir parce que en ce moment bah, ils sont plus trop actifs, ils sont passés sur autre chose ou voilà. En
Et
fait,
ils reviennent pas parce qu'on vote pour eux. Pas
non,
forcément.
c'est bah, à mon avis ça n'a rien à voir avec le vote, c'est juste que bah,
Oui.
pendant un moment ils pouvaient disposer leurs planches, puis ils sont passés par je sais pas, ils sont passés sur un jeu vidéo ou autre chose, donc du coup ils publient plus trop
Oui,
de.
sur un stand-by et puis tant de...
Et voilà.
Mais il y a une thématique entre les strips, les dessins et tout, ou c'est vraiment freestyle total?
Ça dépend. Il y a certains auteurs donc, que je vais détailler après où c'est vraiment un thème en particulier et ils font plusieurs histoires dessus. Ou des fois c'est une planche, on va dire une planche en un gag en une planche, pardon. Ou c'est une histoire complète sur la planche et ça se termine là. Et la prochaine publication, ça sera complètement autre chose. Du coup, je vais vous présenter brièvement deux types de publications que j'aime parmi l'ensemble que propose le site. La première publication, c'est par l'auteur de Florent Bonneau. C'est majoritairement en fait un gag en une case, où c'est vraiment le sketch se termine par en une seule case. Donc le titre de cette série, ça s'appelle L'inspecteur des briques. en référence aussi bien au niveau du nom que du design à l'inspecteur Derrick.
Et des opinions politiques ou pas?
Non, je pense pas.
C'était petit ça.
C'est pas beau de faire.
Ouais, c'est moche. Là. Faut arrêter là.
De Verstappen, c'est pas bien.
Ouais, c'est mal.
Donc en fait, le principe repose sur des punchlines comme Grissom, des experts juste avant le générique, où il va annoncer un truc humoristique par rapport à la scène ou ce qu'on vient de voir. Donc la première publication du site, mais qui correspond pas forcément à la toute première publication de l'auteur sur son blog. Donc on va voir l'inspecteur Debrick et un autre inspecteur penché devant un corps, mais en fait on voit juste le haut du corps des deux inspecteurs. Et on va voir donc le second inspecteur qui dit à Debrick qu'il a retrouvé la victime dans un centre de méditation transcendantale. Ce à quoi répond Debrick, c'est un crime prémédité. D'où le jeu de mots prémédité, médité.
Typique de...
Ouais, on retrouve un peu ce côté de François Pérouse où c'est des jeux de mots double sens dans ce style-là.
Au moins double sens, ouais. Au moins.
Il y a en tout 16 publications de cet auteur-là sur le site. Mmh. Et il y en a plusieurs disponibles sur son blog. Donc c'est flopbd.tumblr.com ou sur ce site. Sur ce site-là, en fait, on va retrouver donc l'intégrale des planches de l'inspecteur Debrick, mais aussi une publication qui s'appelle Jasper le majordome. On va suivre la vie de Jasper le majordome avec plein. Il arrive plein d'aventures. Pareil, c'est en une ou deux cases. Et ensuite Clint, qui rend hommage à Clint Eastwood dans ses grands rôles de. En fait, il y a pareil, là c'est par contre Clint, c'est en pareil, c'est dans une case, mais il y a que 3 ou 4 publications. Et en fait, ça raconte une petite histoire et c'est aussi humoristique.
Et tu Azartov, tu penses que ça permet à certains de se lancer ou de se présenter,
de faire un peu de pub, ouais.
Ouais.
Bah, je pense oui, parce que ça apporte quand même
La visibilité.
De la visibilité, j'allais dire un lieu pour promouvoir, mais oui, de la visibilité où finalement, en fait, on va s'enticher d'un auteur et ensuite on va aller regarder à côté ce que proposent les autres et on va aller finalement sur leur site et suivre aussi ce que les autres vont faire. Pour moi, oui, c'est un bon système.
Et donc, t'avais dit en quelle année ça avait été
En 2007.
D'accord, oui. Ça fait déjà 6 ans.
Ouais.
Pas mal parce que se retrouver dans les blogs BD, c'est quand même un peu le bordel,
oui,
souvent.
Oui.
Tu vas sur le site du FestiBlog.
Oui, j'allais en parler justement à la fin de.
Ah, mais je spoil tous les trucs, c'est pas possible.
Tais-toi, Titour, tais-toi.
Je suis trop balèze, j'aurais pu faire tous les sujets.
Ensuite, la seconde publication que je voulais vous parler aussi, c'est en fait une publication où le lecteur choisit ce qui va se passer dans la suite en votant. Donc au final la série ça s'appelle Rompement de Cachot et c'est dessiné et scénarisé par Megaboy. Actuellement il n'y a que entre guillemets que 2 saisons parce qu'il a commencé il n'y a pas trop longtemps, je crois il y a un mois par entre chaque publication. Du coup ça laisse le temps pour lui de faire ses plans et de faire autre chose à côté. En fait on va voir notre héros qui va faire face à un chemin qui va se diviser. L'un qui va partir vers une grotte, l'autre vers la forêt, avec un encart ensuite qui va nous demander soit on choisit la première proposition, c'est de passer par la grotte, soit deuxième, j'emprunte la forêt. Et donc du coup, les lecteurs de cette planche ont voté. Je sais plus le laps de temps, le temps qu'ils laissent pour voter, mais il doit y avoir une bonne semaine, quelque chose du genre. Et en fait, les lecteurs ont voté pour qu'ils passent par la grotte. La seconde publication, donc, ça a été ses aventures dans la grotte.
Il y a combien de publications ?
Pour l'instant, il y a 5 publications, mais c'est pas toujours forcément un chemin, ça peut être un choix. Là, par exemple, dans cette seconde publication, donc, je vous épargne les péripéties qu'il va avoir pour pas trop vous spoiler, mais à la fin, en fait, il va voir un sorcier qui propose d'enchanter son épée contre des pièces d'or. Et le choix, à ce moment-là, ça va être soit d'accepter, de refuser.
D'accord, c'est comme ouais.
C'est un livre dont on
oui,
est
voilà, c'est presque ça.
Ouais,
c'est
mais en collaboratif.
Voilà. Et la dernière solution qui a été choisie, c'est d'accepter, mais contre un gâteau. Donc tous les lecteurs, en fait, ont choisi d'accepter d'enchanter l'épée, mais contre un gâteau. la troisième publication part sur ce principe-là et on donne juste le choix et c'est l'auteur en fait qui nous surprend avec ce choix-là.
C'est pas mal comme
idée. Oui, c'est pas mal. J'aime bien. C'est pour ça que dès que j'ai vu la première planche, il y en avait, je crois, à ce moment-là, deux publications qui étaient déjà faites. J'ai tout de suite enchaîné et j'ai bien aimé ce style de publication parce que du coup, en fait, on suit le héros, mais on interagit quand même comme si c'était une série dont vous êtes le héros.
Alors, est-ce que tu peux rappeler le nom rapidement?
Donc, c'est Campement de Cachot.
Amplement, ok. Ce sera tout ce
sera Oui. Après, j'avais juste parlé sur le Festiblog qui allait se tenir le week-end du 28 ouais. et du 29, qui est un rassemblement lui aussi gratuit de blogueurs BD.
Et il y aura Davy.
Et il y aura certainement Davy, oui.
Ça se passe où
Ça se passe à la mairie du 3e arrondissement.
Ouais, c'est juste devant.
Ah, mais c'est à Paris.
Ouais, c'est à Paris, ouais. Pardon. Je vais pas préciser.
Mais c'est très sympa, j'y étais les 3 ou 4 dernières années.
Ouais, et cette année, c'est Bastien Vivès qui fait Last Man chez Casterman et Leslie Plié.
Entre autres.
Je connais pas son nom.
Mais il y a, je crois, 50 ou 60 auteurs ouais. à chaque fois.
Ouais, mais
bon,
c'est
par contre,
Parisiens,
ceux qui ne connaissent pas et qui veulent y aller, allez-y tôt. Parce que je me rappelle pour Boulet, j'y étais une heure avant qu'il commence. Et quand il a commencé, il a tourné la tête, il a fait « Oh putain !» Et en gros, il y avait à peu près 200 mètres de queue.
Il y a souvent des événements comme ça, gratuits un peu.
Et il n'avait pas encore commencé, le mec. Donc c'était assez impressionnant. Lui et Maliki, pareil.
Ouais, c'est, en même temps, c'est les grosses têtes d'affiches.
Voilà.
Ouais, je crois que Bajieux, la Pénélope Bajieux, a dû la
faire
aussi.
Ouais, bah,
aussi, tous, Digli, Tokyo Banbao, Bastien Villès, il avait déjà fait. Enfin, ils y sont tous passés, en tout cas. Et la masterclass qu'avait fait Boulet, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, où il faisait les dessins à l'aquarelle et tout, c'est tu pleures.
Très bien, merci. Je sens Monsieur Laurent Doucet qui s'impatiente.
Pas du tout. Hein.
Mais comme c'est Titours qui a dit qu'il allait faire tous les sujets, j'attends que Titours parle.
Alors, salut, c'est Laurent Doucet. Je vais vous parler du catch.
Ah mon Dieu.
Je lance le jingle et...
Ah, plus j'ai droit au jingle.
Du catch dans les nanars.
Alors, Titours, parle-nous du sujet de Laurent.
Salut. Alors, le catch dans les nanars.
Non, pitié, non, on va l'arrêter.
Alors, Laurent,
je vais vous parler de livres et de musique en même temps. Il me semble que ZQSD, qui était passé par chez toi, péremptoire, avait évoqué la bio de Lémi, je crois. De Motte l'écrou, voilà. Ouais. Moi, je vais évoquer deux bios, parce que je suis dans une période où je lis pas mal de bios. De deux guitaristes des années qui ont démarré tous les deux dans les années 60. Et voilà, malgré un peu comme Péremptoire qui aime les années 80, moi il y a une partie de la musique que j'aime qui vient des années 60, bien que je sois né bien plus tard.
Ça manque de synthé les années 60.
Pas tant que ça.
Ah, mais c'est bien la musique des années 60.
Tout à fait. Et donc je les ai pris deux à la fois parce qu'elles sont elles ont un large point commun que je vais expliquer, mais elles sont aussi très différentes. La première, elle s'appelle Life tout simplement, et c'est la bio de Keith Richards, le guitariste des Stones. Donc le guitariste de Rolling Stone, groupe mythique depuis les années, donc qui a démarré en 62 à peu près officiellement on va dire, qui est, j'allais dire, toujours en activité. Bon, je pense qu'on les reverra pas tout de suite, mais parce qu'ils font quelques concerts maintenant, beaucoup moins, mais ils ont chacun 70 ans assez bien tassés.
Voilà. Oui,
pas loin, ouais.
En plus, ils ont chacun des problèmes presque de vieux, hein, parce que Keith Richards, le guitariste, a plein d'arthrite. Je crois que le batteur a eu des vrais problèmes de santé plus importants. Enfin, oui. Voilà. Mais c'est quand
je
même.
Je te demande pourquoi. Hein.
Alors, on va y venir, évidemment.
Bon,
c'est quand même un des groupes mythiques du rock'n'roll anglais, voilà, qui a vraiment fait des tubes mondiaux, Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et Richards, aidé d'un journaliste, hein, quand même, parce que voilà. Je dis ça parce que l'autre guitariste dont j'ai parlé, il a écrit lui tout seul.
C'est ce qu'il dit ou c'est ce qu'il a fait
Tout le livre, c'est marqué Keith Richards en collaboration.
Non, je parle de l'autre parce que.
Pardon.
Non, l'autre. C'est possible qu'il
l'autre,
ait un
c'est
petit
possible.
Pour avoir
non,
écrit...
non. Parce que je vais y revenir tout à l'heure, mais l'autre personnage est. Je suis pas sûr. C'est
ne spoil pas s'il te plaît.
Donc Life raconte la vie de Keith Richards. Alors évidemment, on était tous, pour même les fans des Stones, très impatients de lire la vie de Keith Richards parce qu'il faisait partie de ces stars comme les Mish, dont je parlais de Motorhead, comme d'autres, qui sont pas morts à 27 ans comme les Hendrix, les Morrison, mais qui, ou les voir en vie, c'est assez miraculeux, tellement effectivement il y a eu des excès. voilà. Et ce qui est intéressant chez Richard, c'est qu'il va parler de son enfance, dans l'espèce de banlieue un peu merdique dans londonienne, de la découverte qu'ils ont du rock'n'roll, parce que c'est quand même un moment où le rock'n'roll arrive et nous, enfin, tout est dispo très très vite. Eux, à l'époque, c'est très rare. Enfin, voilà, c'est des choses où ils ont vraiment initié. C'est la première fois que cette jeunesse écoutait autre chose que leurs parents. Et c'est une vraie rébellion, qu'on peut appeler comme ça, les années 60. Voilà, il y a une vraie rupture qu'aura plus lieu, beaucoup moins lieu après. Donc vraiment, de voir cette naissance du rock'n'roll tel qu'on l'entend nous, voilà, les pubs du rock'n'roll, et puis cette montée en puissance, le fait de devenir effectivement une superstar et de tomber dans des excès, et Richard assume ses excès sans problème. Ça, là, il va pas faire de l'autocritique, il va pas dire « oh là là, c'est pas bien », non, il explique la période où il est accro à la cocaïne, à la période où il est alcoolique, enfin voilà, il y a tout une, vraiment...
Un rocker, quoi.
Voilà, un vrai rocker, et c'est intéressant parce que Richard, le bouquin est écrit un peu comme il parle, vraiment comme il échange. Voilà, il raconte sa vie, ses frasques, ses femmes, voilà, enfin il y a tout. Et c'est vraiment une plongée passionnante. C'est rigolo parce que c'est monté de manière, c'est pas du tout chronologique, pas trop. Bon, il suit des trucs, mais de temps en temps il fait des allers-retours. Mais c'est vraiment une plongée dans sa vie. Il y a un peu de réflexion dans comment il vit. Ce côté star, c'est la composition, les personnes qu'il rencontre, son rapport avec Mick Jagger qui a été quand même très compliqué, qui est le chanteur des Stones tout au long de sa carrière. Mais c'est vraiment beau parce que voilà, il est lui, il est en vie évidemment, et puis maintenant il est plutôt serein. On l'a vu, pour ceux qui connaissent pas les Stones, il est Keith Richards a servi de modèle pour le personnage de Jack Sparrow dans le Pirate des Caraïbes. Il a tellement servi de modèle que c'est lui qui joue le papa de Johnny Depp dans le 3, je crois. Il fait une apparition dans le 3 et dans le 4. Donc vraiment, c'est pour replonger dans ces années-là, alors des années 60 aux années 2000, parce que les Stones ont la chance d'être encore en activité, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et lui, alors en plus, Richard a plongé dans la musique jamaïcaine. Il a eu sa période reggae, il a une maison en Jamaïque. Enfin voilà, il a touché vraiment à tout, dans tous les sens du terme d'ailleurs, que ce soit musical ou pas. Et c'est vraiment passionnant de voir ça, de voir ce truc-là, et raconter comme un pote vous raconterait ses souvenirs au coin du feu. Voilà, c'est vraiment des tranches de vie, des extraits, exactement.
Tranches de cocaïne.
Aussi, voilà. Mais bon, donc voilà. Je le mets en opposition, et c'est là où j'ai passé à ma deuxième bio, qui est celle de Pete Townshend. Pete Townshend, c'est le guitariste des Who. C'est un groupe qui a été taxé par les fans de One Direction c'est quoi ce groupe qui essaye de se faire...
Oui, c'est juste des jaloux.
Hein. Essaye de faire de la pub, voilà. Les One Direction ayant d'ailleurs pompé honteusement un morceau qui s'appelle Baba O'Reilly, que les gens connaissent parce que c'est le générique de Les Experts Manhattan. Non,
Manhattan. Enfin bref, c'est un des génériques.
Voilà, un des génériques.
Enfin, ils ont pas pompé que ça, ils en ont pompé plein d'autres chansons.
Voilà. Sachant que pour l'anecdote, on a demandé à Pete Townshend des Who ce qu'il en pensait de Play One Direction, lui pique des trucs, il lui a dit « Oh, c'est pas grave, le morceau est pas mal, c'est pas grave. » Voilà, bon, il est un peu au-dessus de ça. Townshend, on en revient à ce que tu disais hier, Slow, je crois, c'est lui qui l'a écrite. Il n'est pas aidé, ou en tout cas pas officiellement, mais je pense vraiment pas, parce que Townshend, c'est plus qu'un guitariste, c'est vraiment un artiste. C'est-à-dire que là, quand lui raconte son histoire, elle est beaucoup plus chronologique. C'est un personnage bien plus dur que Richard. Richard, c'est vraiment le rock bohème, ses périodes de délire, mais globalement, c'est un peu la bohème, le rock and roll, le pote un peu sympa. Townshend, c'est un vrai maniaco-dépressif. Enfin, j'exagère un peu, mais il est vraiment... c'est un artiste contrarié, contrariant souvent. Townshend avait la réputation de casser ses guitares. À un moment, il découvre qu'il... Oui. Il casse ses guitares sur scène et pour lui c'est un acte artistique. Voilà, il y a un truc où tout d'un coup il rentre. Voilà, c'est vraiment, je vais caricaturer, mais c'est vraiment pour moi un intellectuel presque. C'est quelqu'un qui réfléchit à ses actions, à ce qu'il pense. Il va quand même accoucher d'un opéra rock. Ça va être le premier qui s'appelle Tommy. Ça va être le premier à faire cette forme-là de pousser la pop et le rock comme ça. Alors, il est encore plus compliqué dans ce rapport de groupe, dans ses rapports aux autres, où il est absolument infect, il est très très tyrannique, ce qui n'est pas du tout le cas de Richard. Il a aussi ses excès, il a toute une période de sa vie où il est très alcoolique, où il va, notamment avec Clapton aussi, ils ont tous vécu ça. Voilà. Mais c'est pareil, on voit aussi cette naissance du rock'n'roll dans les années 60, comment elle sort d'Angleterre, comment ils se mettent à tourner aux États-Unis, comment toute cette jeunesse c'est des gamins qui se mettent à faire du rock parce que ça leur plaît, et tout d'un coup, la jeunesse se reconnaît en eux, et de temps en temps, ils auront du mal à gérer toute cette reconnaissance. C'est beaucoup plus. Je la conseillerais pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup plus de réflexion artistique. Lui, il se passionne pour tous les arts, plastique, peinture, etc. C'est moins fun, je dirais, que la bio de Richard à lire. Mais du coup, ça donne deux visions de ces périodes-là, de ce rock-là. Moi, c'est des groupes que j'aime autant les uns que les autres parce que c'est vraiment des groupes dont les morceaux
Mythique.
sont fabuleux et ont traversé le temps. Ce qu'on disait sur les. Parler du générique des experts, on voit bien que c'est des morceaux avec du synthé, avec des choses plus creusées, là où les Stones ont gardé leur esprit rock'n'roll, ce qui fait leur force, rhythm and blues et rock'n'roll, les Who ont plutôt cherché ailleurs, ont expérimenté. Donc on voit tout ça là-dedans.
C'est un
Et
des premiers à avoir fait ça d'ailleurs,
oui,
justement.
ouais, c'est un des premiers, voilà. Et c'est vraiment intéressant pour qui voir aussi. Une autre approche, un autre guitariste de la même époque, parce qu'ils vont se croiser hein, beaucoup, ils sont même potes hein, à peu près, mais vraiment de voir comment tout ça vit autour de ce Microsoft de 60 et les Who sont entre guillemets encore en activité. Alors les Who, malheureusement pour eux, il y en a sur les quatre, il y en a deux de morts. Keith Moon, le batteur, est mort plus jeune, pareil, d'overdose, je crois. Et le bassiste est décédé, lui, d'une maladie plus. Il n'est pas décédé de ses excès. Mais voilà. Donc je recommande pour les gens qui aiment la période, qui aiment lire des bios parce que c'est toujours rigolo de plonger dans leur vie. Les deux, elles sont vraiment aussi efficaces l'une que l'autre. Donc celle de Richard s'appelle Life et celle de Pete Townshend s'appelle Who I Am, évidemment. Voilà, elle l'a trouvée. Donc je recommande ça les deux. N'hésitez pas, c'est vraiment un truc passionnant.
Et on peut recommander d'aller écouter la musique aussi.
Évidemment, plongez-vous dans les groupes.
Évidemment.
Ouais, non, évidemment. C'est ça, mais ça,
Mais,
c'est une
mais, mais.
évidence.
Je vais me faire tuer en disant ça, mais Satisfaction, c'est vraiment. Je
Alors,
peux pas blairer cette
honnêtement, c'est
chanson.
loin, loin, loin d'être le meilleur morceau des Stones.
D'accord, on est d'accord.
Satisfaction, il est. La force de Satisfaction, c'est que d'abord, il arrive un moment où personne n'avait un. Enfin, peu de gens avaient le son comme ça à cette époque-là, en 65, Satisfaction. Et que c'est un mec qui, en 65, dans une jeunesse qui bouge, mais pas encore, qui n'est pas encore libérée, qui chante ouvertement, qui trouve pas, qui n'arrive pas à jouir. Hein. Voilà, c'est quand même ça. Il faut se remettre dans l'époque, en 65, le mec qui gueule ça. Ben voilà, le morceau est plus intéressant pour ce qu'il représente dans l'époque, au moment où ça se passe, que le morceau en lui-même qui est pas. D'ailleurs, ils le font toujours sur scène, évidemment, mais il y a une période où ils finissaient les concerts avec ça, et maintenant ils ne finissent plus leurs concerts avec ça, ils finissaient leurs concerts avec Jumpin' Jack Flash, qui est un morceau nettement plus sympa, notamment. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres morceaux des Stones bien plus intéressants que Satisfaction.
Parfait. On va passer à la conclusion. Piou. Messieurs, on a explosé le compteur encore une fois.
C'est pas ma
Zut.
faute.
Désolé.
C'est pas grave, on va quand même terminer l'émission. Avec les invités, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Azertof.
Moi sur Twitter.
Principalement.
Simplement.
Rien de plus, pas de blog, pas de podcast.
Non, pas de plus. J'ai juste ceci. J'ai fait un petit truc qui est encore en test qui s'appelle Planning
Ah
Podcast.
oui.
Qui indique simplement les podcasts en live par rapport aux messages sur Twitter.
Ça va, de toute façon, tu vas améliorer tout ça et puis ça va
mieux. Oui, c'est juste en test.
Parce
comme ça.
Qu'Azertov, globalement, tous les jours, il est marqué péremptoire, c'est ça le principe.
Quasiment tous les soirs.
On pourrait parler de toi, hein, Laurent, mais puisque tu parles, c'est toi qui va te présenter. Enfin,
Moi, on me retrouve dans le Broclash, alors sur Twitter, @LaurentDoucet, mais bon, ça, si vous ennuyez, c'est rigolo, parfois. Et puis, donc,
dans
le bro.
Yata, dans
Ouais, bon, moins
du
vite.
Capitaine, dans.
Et non, j'ai pas fait le débrief du concert de l'apéro du capitaine, et
Ah
j'en
oui, c'est
suis
vrai.
bien triste. C'est pas dit que je n'arrive pas à me faire réinviter d'ici là, mais bon. Non, dans le Broclash avec mon frère, donc The Broclash, où tous les deux on confond nos avis sur un objet
salut,
culturel.
C'est Arnaud Doucet.
C'est Arnaud Doucet, évidemment. le dernier ayant porté sur J.J. Abrams.
Et tu as gagné en plus, non ?
J'ai gagné d'un vote.
Ouais. Et c'est grâce à moi en plus.
J'adore J.J. Abrams, mais
bah
je
oui.
pas.
Ah, génial. À 10 minutes de l'enregistrement du suivant que nous avons enregistré, le public a tranché.
Il a vu un tweet passé.
Il a vu un.
Il s'est dit on est ex aequo, bougez-vous.
Voilà, bon, allez, j'ai gagné. Merci Titour, tu as tout mon respect. Prie. Et donc le prochain faute. Porte sur la Brigade Chimérique, qui est une BD entre guillemets franco-belge en 5 tomes sur des super-héros dans l'entre-deux-guerres. Voilà, ça va un peu changer, mais donc voilà. Donc The Broclash, THEBROCLASH. Twitter et site, c'est la même chose.
Très bien. Guillaume.
Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec @irslow, sur Lifetile, où on vous parle de Windows Phone, et sur irslow.net. Voilà, un petit blog perso.
Clair et efficace.
Voilà.
Titours.
On peut me retrouver dans les boutiques de thé à Paris, principalement. J'y traîne souvent.
Et l'autre, il se moque des drogués. Mais quelle honte.
Ah, c'est pas pareil.
Non,
sinon, @titours sur Twitter avec un zéro. Je crois que j'ai fait un épisode de hors cadre récemment avec un certain péremptoire et un certain Randall Flagg.
Tu as survécu au jeu de mots de Randall Flagg ?
Ah, ben oh là là.
Oui, calme,
depuis le temps que j'ai survécu à Randall. Et puis
très
voilà.
Bien. Ok, parfait. Et donc, pour l'émission, donc, c'est encore en travaux. Il faut que j'arrive à faire cette putain de redirection qui fait chier. Et donc vous verrez le lien, ça traînera sur Twitter, @les_éclaireurs. Et puis pour le prochain éclairage, ce sera un spécial Perfide Albion. Ça, on va parler de toutes les séries anglaises, le BD anglaise, tout ça, ça pourrait être sympa. Et d'ici là, donc on se retrouve le mois prochain ou dans 3 semaines, je sais pas encore, je verrai bien. Et d'ici là, bah, cultivez-vous bien et salut.
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 Au revoir. Look.